Prêts, les enfants ?
Oui, capitaine !
J'ai pas entendu !
Oui, capitaine !
Oh ! Bande de moussaillons, il paraît qu'on écoute Radio Pirate. Allez, installez-vous, c'est la fin de la semaine. On est parti pour une émission sur la fin du monde. Plus exactement comment tout cela débuta, mais c'était il y a plusieurs mois. Les troubles étaient alors à leur comble. À une période de chaos, tant politique que sociale, s'ajoutait la crainte étrange et ténébreuse d'un péril plus concret. Une monstrueuse culpabilité pesait sur le pays tout entier, et du néant entre les étoiles, un souffle glacial faisait frissonner les hommes au plus profond d'eux-mêmes. Le rythme des saisons connaissait des bouleversements infernaux cet automne. La chaleur ne faiblit pas, et nous sentions tous que le monde, peut-être même l'univers, était passé des mains de nos divinités familières à celles de puissances inconnues. C'est alors que Nyarlathotep surgit d'Égypte. Chaque fois que je lis ces mots qui ouvrent la nouvelle Nyarlathotep, je me dis que Lovecraft les a probablement écrits pour une époque particulièrement proche de la nôtre. Et si un siècle de science-fiction a prouvé quelque chose, c'est que le sentiment catastrophiste de l'auteur, qui, au passage, était excessivement raciste de l'appel de Cthulhu, s'est généralisé. De 1984 à La Route, en passant par The Walking Dead et La Servante Écarlate, nos univers esthétiques sont remplis d'histoires de mondes en déclin, en décrépitude ou tout bonnement finis. Ces fantasmes de fin du monde font écho à l'appauvrissement de nos imaginaires politiques, mis comme en catatonie par le catastrophisme climatique et l'absence d'alternatives envisageables au capitalisme. La fin du monde est toujours la fin d'un monde urbain, industrialisé et vu comme un âge d'or, loin des perspectives de celles et ceux dont ce monde idéalisé détruisait pourtant le monde au jour le jour. C'est de son analyse de cette jonction entre la science-fiction et les imaginaires politiques que l'intellectuel marxiste Mark Fisher a tiré sa fameuse reprise de la phrase « Il est désormais plus facile d'imaginer la fin du monde que celle du capitalisme ». Cette idée faisait alors écho à l'idée d'une absence d'alternative et d'utopie, concrète ou non, mais il se passe peut-être quelque chose d'autre. L'émergence d'imaginaires fascistes, exterministes ou pires, comme si l'idéologie du capital se mettait petit à petit à donner naissance à des monstres pour lui succéder, surtout face à la catastrophe promise. Sous Vichy, déjà, Barjavel voyait dans la destruction de la société utopique, de son ravage, l'opportunité d'une révolution nationale qui faisait écho à celle du maréchal Pétain. Mais la fin du monde n'est pas fixée, à travers la critique, à travers les imaginaires et à travers les expériences concrètes, dans des communes, dans des fictions et dans des moments de crise, les mouvements sociaux ont travaillé depuis toujours à faire naître un nouveau monde dans la carcasse de l'ancien. Alors, la fin du monde, oui, mais laquelle ? Vous êtes sur Radio Pirate, ici Pand of Strocknis, c'est vendredi. Relaxez-vous, ici on choisit nos cataclysmes.
Radio.
Pirate !
Alors, pour l'émission de ce soir, j'ai le grand plaisir d'avoir deux invités avec moi pour parler de ces thématiques de fin du monde et de fin du capitalisme. Tout d'abord, j'accueille Isabella. Isabella, tu es géographe. Est-ce que tu veux te présenter aux auditeurs et aux auditrices ?
Oui, merci. Bonsoir tout le monde. Je suis vraiment ravie d'être là, de pouvoir participer à cette stimulante discussion. Oui, aujourd'hui, je suis géographe, mais j'ai un passé de philosophe. Donc, voilà, c'est la géographie, disons, cette discipline indisciplinée, comme on la définit, m'a donné l'occasion de pouvoir effectivement étudier la catastrophe. Et en particulier une catastrophe que j'ai vécue personnellement, donc dont j'ai fait voilà une expérience aussi intellectuelle, culturelle et politique. Voilà, donc je suis là pour vous parler un peu de ça, de mes expériences et mes réflexions là-dessus.
Alors, Isabella, ici sur Radio Pirate, on se définit comme une radio engagée de nombreuses façons. Est-ce que toi-même tu te reconnais dans ce qualificatif dans le cadre de ta recherche?
Donc, ouais, ma recherche, elle est née, comme je le disais, sur les terrains. C'est, comment on dit, les terrains qui m'a rattrapée. C'est-à-dire que, voilà, ce tremblement de terre qui nous est littéralement tombé dessus, a complètement changé ma vision du monde, évidemment. Enfin, pas pour tout le monde, hein. On peut aussi se replier sur soi-même, mais je pense qu'on en parlera plus tard. Et du coup, j'avais déjà des expériences militantes, évidemment, surtout à Naples, dans mon université de provenance. Voilà, et comme plusieurs d'entre nous, je pense que je cherchais voilà, des lieux où construire une utopie concrète. Et puis, la catastrophe, disons, qui m'a levé tous les doutes. Et je pense qu'on en parlera plus tard, mais voilà, je me suis engagée avec d'autres copains à auto-construire des maisons en paille pour répondre à nos propres besoins dans une situation catastrophique, alors que non seulement donc, il y avait eu l'événement, mais il y avait aussi la gestion de la catastrophe qui la rendait encore plus catastrophique. Donc, je vous rappelle seulement que les cas échéants, c'était le tremblement de terre de l'Aquila 2009 et il y avait Berlusconi au gouvernement. Et donc, depuis, je n'ai pas arrêté d'essayer de discuter de la catastrophe, puisque j'élargis mon regard effectivement à la catastrophe industrielle et à ce monde qui se construit autour de cet imaginaire. Voilà. Donc, oui, c'est une recherche engagée, parce que du coup, ça parle beaucoup de terrain, d'expérience, de collectifs qui sont montés, des manifs. Voilà, et ça parle aussi évidemment de cette étrange chose qui est la catastrophe qui se distingue bien des risques par justement sa force, quoi, la force de l'événement bouleversant. Quoi. Donc, et puis depuis, j'ai pu croiser des alliances, des solidarités avec d'autres personnes qui étudient ça et qui commence de plus en plus à l'avoir vécu aussi. Il y a une anthropologue qui s'est beaucoup occupée de le post-tsunami 2004, une anthropologue italienne, Mara Benaduzzi, qui dans un texte très joli il y a 2-3 ans, elle parle de plus en plus de cette nouvelle posture qui sera de plus en plus commune du chercheur réfugié, du chercheur rescapé. Parce qu'on sera peut-être de plus en plus tous amenés à vivre des situations de catastrophe. Je ne sais pas si j'ai assez...
Oui, absolument répondu, bien sûr. Ce soir, okay. comme autre débatteuse, accompagnatrice, informeuse, je ne sais pas trop comment dire, nous avons Rim. Rim, toi, je te connais à travers le podcast Sortir du capitalisme. Est-ce que tu veux te présenter à nous concernant cette thématique aussi un petit peu davantage?
Oui, alors, je suis membre de l'équipe qui s'occupe du podcast Sortir du capitalisme, comme tu l'as dit. Et je suis ici parce que j'ai eu un parcours intellectuel et militant qui m'a fait fréquenter diverses structures de l'écologie politique, notamment et d'autres structures aussi, par exemple notamment la collapsologie. Une idéologie, ça se discuterait, on en parlera plus tard, mais qui prend à bras le corps cette question des catastrophes, de l'effondrement. Je suis passé aussi par le primitivisme, la critique anticivilisationnelle, et aussi par certains courants un peu nihilistes de l'anarchisme. Maintenant, je suis assez critique avec tous ces courants-là. Je me définis plutôt comme communiste libertaire là-dessus, mais c'est des courants qui m'ont formé idéologiquement et avec qui j'espère pouvoir débattre un petit peu aujourd'hui et proposer des questionnements par rapport à cette analyse-là et à comment considérer la catastrophe et à comment peut-être la théoriser, la vivre aussi.
En fait, on pourrait partir de cette question de la catastrophe, ce fantasme ou cet imaginaire de la catastrophe. Vous avez, enfin, toi, Rim, tu as utilisé le mot de collapsologie. Toi, Isabella, tu as parlé de catastrophe aussi. Alors, qu'est-ce que c'est que ces imaginaires et comment est-ce que en fait l'idéologie du capital, en quelque sorte, produit des imaginaires de sa propre fin?
Effectivement, si on remonte un peu l'histoire de cette période longue qu'on appelle la modernité, hein, de manière assez large, on se rend compte vite que depuis son début, il y a un désir, enfin, il y a un désir, oui, de idéaliser les relations sociales qui commencent à déliter, qui commencent à s'effriter. Évidemment, cette quête de rationalité, de contrôle, de maîtrise font que ben, la chose sur laquelle le phénomène plus marquant de la modernité, c'est la ville, c'est la naissance des villes, effectivement, de ces agglomérations de plus en plus grandes jusqu'à aujourd'hui, les mégapoles. Et du coup, voilà, on se dit que ce lieu, qui est par ailleurs aussi un peu l'imaginaire du chaos, de la perdition, voilà, de la Babylone, et ben c'est le lieu adapté pour essayer de contrôler voilà tout ce chaos-là, porter de l'ordre, porter de la voilà du contrôle. Et cela, ça s'est fait de plusieurs manières et c'est vraiment un mythe. Moi, souvent quand j'en parle, j'ai l'impression vraiment de raconter un mythe comme les mythes grecs. Voilà, c'est vraiment le mythe de notre civilisation qui, du coup, voilà, prenait de plus en plus distance avec l'environnement. Et du coup, ben, je peux en citer de Thomas More à la Città del Sole et de Tommaso Campanella, ou voilà, et toutes les utopies urbaines en fait qui naissent un peu de cette époque-là, et donc les villes rationalistes, les cités-jardins plus tard, et même dans les utopies ben, d'extrême droite, quoi, de la production urbaine naziste, ben on retrouve voilà cette volonté voilà de maîtriser ce que il semble de plus en plus échapper en fait. C'est bien l'ordre du cosmos est mis à mal par la perte de référence de sens qui est due à la tombée de voilà des religions, des vérités religieuses, des vérités du coup scientifiques et qui sont de moins en moins du même ordre quoi. Donc moi j'en fais aussi une question évidemment esthétique de l'imaginaire, mais aussi une question de construction du savoir qui m'intéresse beaucoup. Voilà comment ça sédimente ces connaissances autour de cet utopisme catastrophiste, voilà qui effectivement est un peu aussi à l'origine de toute façon de notre culture, même plus large. Si on pense à la Bible qui commence par un déluge, bon voilà, c'est quand même une manière d'appréhender le monde assez particulière, quoi. En tout cas,
Ouais.
je ne sais pas, Rim, si tu veux déjà dire quelque chose.
Ouais, parce que j'allais dire, ça m'a l'air du coup de faire la jonction de façon intéressante avec cette idée, en tout cas ce que tu m'en as dit dans la préparation de cette émission, Rim, cette idée de la collapsologie, du fantasme ou de la mythologie de la destruction en fait.
Bah, complètement. Bah, le fantasme de la table rase ou de la destruction pour repartir sur des bases saines, c'est quelque chose qui remonte à. Je sais pas si ça remonte à avant le capitalisme, mais en tout cas au début du capitalisme, c'est des trucs qui commencent à se développer. Je pense par exemple au nihilisme russe avec un auteur que beaucoup d'anarchistes connaissent qui est Bakounine. On a vraiment une société, enfin pas une société, mais il y a un modèle de révolution qui est vraiment un modèle de destruction totale et très nihiliste. Et d'ailleurs, c'est dans Climat Châtiment qu'il y a un personnage qui le montre extrêmement bien, qui est une caricature de Dostoïevski, d'un nihiliste russe, et qui veut, à chaque fois qu'il pense à une institution sociale, il veut la détruire, et pour repartir sur des bases saines. Et c'est un truc qui a suivi et qui est passé par de moult phases. Notamment, ça c'est assez intéressant d'ailleurs sur la question du nazisme aussi, cette question de certains analystes du nazisme ont pensé cette question-là par pour créer les nazis, pour vouloir créer une société qu'ils considéraient comme meilleure, il fallait passer par des horreurs comme la Shoah. Évidemment, la société qu'ils considéraient comme meilleure est une société aussi horrible que celle qu'ils ont créée actuellement, mais c'était une idée qui était présente à ma connaissance. Et ça a évolué au fur et à mesure avec divers dystopies que les gens connaissent, etc., jusqu'à la collapsologie. Qui est une idée qui n'est pas récente, quelque chose d'un monde de pas du tout récent, qui s'inspire de courants idéologiques qui ont 50 ans de plus que la collapsologie, comme les auteurs de la décroissance, Ellul, Illich, Charbonneau, comme l'écologie profonde, ou même l'écologie sociale, plutôt dans les années 70-80. Et Pablo Servigne et ses co-auteurs, Raphaël Stevens, c'est sur un autre ouvrage, Gauthier Chapelle, on posait cette question-là vraiment de manière directe en publiant premièrement Comment peut tout s'effondrer. Pablo Servigne avait déjà bossé sur ces sujets-là avant, et où vraiment ils font un étalage de, je pense que le mot étalage est vraiment intéressant là-dessus, de connaissances scientifiques diverses venant souvent des sciences naturelles, voire quasi exclusivement, en montrant la situation écologique est catastrophique. Et ça, on peut tous être d'accord là-dessus. Et donc, la seule solution possible, c'est pas une solution, c'est ce qu'ils appellent dans leurs ouvrages un predicament, qui est un mot anglais qui est une situation inextricable, une situation impossible, on ne peut pas sortir. Et la seule possibilité, c'est un effondrement civilisationnel, un effondrement de ce qu'ils appellent la civilisation thermo-industrielle. Et donc, la collapse là-dessus reprend vraiment une partie de cette imagination. Enfin, ils ont un rapport assez particulier. Puis, il y a une multitude d'auteurs et de courants idéologiques qui se revendiquent ou non de la collapsologie. Donc, il faut une analyse vraiment très précise là-dessus. Mais il y a un imaginaire dont ils essayent de s'enlever, mais qui est vraiment ancré là-dessus, quoi. Un effondrement qui parfois est un déclin, mais qui est toujours considéré comme quelque chose de brutal en même temps. On pourra en parler plus en détail, mais c'est vraiment quelque chose, ils sont pas clairs, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont fait revivre cet imaginaire-là dans les médias, notamment en France et aux États-Unis.
Cette position, elle me paraît à moi, qui connais pas ce monde-là, intéressante parce que l'auteur que je citais dans mon introduction, Mark Fisher, il développe cette idée que finalement, un peu le stade suprême du capitalisme, c'est de réussir à empêcher de penser sa propre fin comme autre chose que quelque chose qui serait une fin de l'humanité, quelque chose qui serait une planète plus dans laquelle serait plus possible de survivre et de tellement en fait aliéner les individus. Il devient complètement impossible soit d'être dans autre chose que soit une angoisse, soit une espèce d'embrassade comme ça de l'idée de la fin ou de la catastrophe. Est-ce que vous feriez cette jonction, Isabella par exemple, et Rim aussi, entre cet état en fait d'avancement du capitalisme et ces fantasmes de fin du monde en fait?
Ben absolument, en fait, disons que le capitalisme est souvent présenté comme le seul rempart à la pauvreté, le seul rempart au chaos, la seule réponse possible justement à un effondrement d'autre type qui peut être social, vous voyez, pour garder voilà, la paix sociale, la démocratie, etc. Donc effectivement, évoquer le fantasme de sa fin, c'est pour, comme expliquait très bien Rim, c'est effectivement pour le maintenir en vie. Mais en même temps, c'est effectivement de là qu'il trouve sa source chaque fois. Parce que ben, dans mes études, dans mes analyses, ce qui se passe, c'est que historiquement, depuis qu'on étudie les catastrophes, c'est-à-dire pareil de l'époque moderne, depuis le fameux tremblement de terre de Lisbonne, en fait. Et ben, où on commence à raisonner sur la catastrophe, non pas comme, non plus comme châtiment divin, non plus comme punition, non plus d'un côté moral, mais comme phénomène physique en tant que tel, donc un aléa à étudier scientifiquement, et d'autre part, comme effectivement quelque chose qu'on peut préparer, auquel on peut se préparer, qu'on peut essayer de maîtriser par la science. Et donc, les dichotomies que je vois en acte, enfin, comment dire, les forces de tension qui tiennent debout ce discours sont effectivement de forces qui, d'une part, portent donc le fantasme de cette l'hantise de cette destruction, et de l'autre, évidemment, le technosolutionnisme, quoi. Enfin, la solution qui passe toujours, évidemment, par surplus de science, du scientisme, et du coup, voilà, de production industrielle qui serait capable, enfin d'objets, hein, qui serait capable de répondre, voilà, à ces enjeux-là. Et c'est là que les discours, enfin, c'est une des points du discours de Servigne qui est pour moi le plus critiquable, et aussi parce qu'il s'empare de la notion de catastrophe en utilisant de manière, pour moi et mes collègues aussi, qui faisons tant d'efforts pour démontrer son origine justement ancrée dans le capitalisme, voilà, comme une rupture, un mur face auquel on va de toute façon. Leur attitude est carrément plutôt du côté de la prophétie que du côté effectivement du changement social, enfin du changement politique, de la prise en compte des racines, des origines de ces faits dont ils se font écran. Comment dire, on se trouve devant cette catastrophe à venir, sûrement, avec certitude. Et puis voilà, on laisse venir et on verra ce qui se passe. Et on ne se pose pas la question des inégalités face à laquelle, enfin, que les catastrophes, chaque fois, nous met sous les yeux. On le voit à nouveau ici, face au Covid. Non, on n'est pas tous égaux face à la catastrophe. Ça, c'est un autre mythe. Le mythe, la nivelle, la catastrophe, elle va tout niveler, on va être tous pareils, comme une solution non politique aux problèmes sociaux. Et donc, en fait, ça, c'est évidemment pour moi déjà inacceptable et critiquable, car effectivement, voilà, comme je disais, les études historiques sur les catastrophes montrent bien comme chaque fois, c'était l'occasion pour imposer plus de modernité, plus, donc un cran de plus de contrôle social, parfois de manière hyper violente, sans aucune attention évidemment aux populations touchées, qui ne devient que l'excuse, voilà, pour agir d'une manière, avec une action très centralisée. Et voilà, et donc chaque fois c'était voilà, l'occasion pour, je sais pas, par exemple, dans les tremblements de terre de 1908 en Italie, c'est ce que je connais le mieux, hein, de Messine et Reggio Calabria, les deux pointes de la Calabre et de la Sicile qui se touchent presque dans l'étroit de Messine, mais il y a eu, c'est le début enfin, voilà, de l'histoire de l'Italie, dans son unification, c'est le début d'un changement industriel en cours. Eh ben, un des plus grands ports de la Méditerranée, touché par un terriblement de tremblement de terre, il y a 150 000 morts, c'est ce qu'on connaît, parce que évidemment, c'est pas clair. Et ben voilà, c'est l'armée qui arrive, c'est l'armée qui arrive, et il y a des massacres, il y a, enfin voilà, et du coup, les habitants sont évincés de leur ville, et en fait, c'est d'autres forces économiques, d'autres forces politiques qui prennent le dessus. Et c'est un peu ce qui se passe chaque fois. On a des exemples pour Catherine, l'ouragan Irma. Enfin, en fait, c'est un mécanisme vraiment comment? Cynique, certes. Alors, c'est ça qui le rend difficile de compréhension. Enfin, vraiment, on a du mal à se dire que c'est possible de faire ça sur des gens qui sont déjà en plus accablés par l'événement. Mais en fait, oui. Donc, et là, c'est des mécanismes économiques tout nouveaux qui se mettent en marche et qui s'adaptent évidemment aux acteurs locaux. Et bon, après, je ne vais pas rentrer peut-être dans les détails.
Bah,
Je
d'autant plus qu'on va approfondir, on va approfondir dans un moment. Alors, je sors un petit peu un moment du thème de l'émission pour parler du fait que voilà, vous êtes sur Radio Pirate. Sur Radio Pirate, vous le savez, et ça a à voir un peu avec le sujet d'aujourd'hui, puisqu'on parle de catastrophisme, on parle d'angoisse aussi climatique, etc. Sur Radio Pirate, on met à votre disposition des informations sur les questions de violence et de santé mentale, notamment tous les jours. Donc aujourd'hui, on va vous diffuser quelques informations en ce sens sur la question de la santé mentale pendant le confinement. Et on vous retrouve juste après.
Coincée entre un climat social anxiogène et les contraintes imposées par la crise sanitaire, la santé mentale en prend un coup. Dans ces moments particulièrement difficiles, il est important de ne pas rester seul, avec ses angoisses, ses doutes et des idées noires. Si vous vous sentez isolé et coupé de tout, des lignes d'écoute anonymes et gratuites proposent un accueil téléphonique 24 heures sur 24. En France, vous pouvez contacter SOS Amitié au 09 72 39 40 50. En Belgique, Téléaccueil est joignable au 107. Et en Suisse, pour la main tendue, appelez le 143. Ces lignes d'écoute proposent également une messagerie, ainsi que des permanences de messagerie instantanée via leur site internet. Pour la France, cherchez SOS Amitié, en Belgique, Téléaccueil, et en Suisse, la main tendue.
On était justement en train de parler de catastrophe, on était en train de parler de développement du capitalisme, de la façon dont cette catastrophe est utilisée justement pour participer de ce développement. Et une chose qui nous a frappé en préparant l'émission, c'est qu'en fait, la catastrophe est déjà là, d'une certaine façon, c'est-à-dire le capitalisme s'est développé, quand on arrête de le regarder depuis son centre et qu'on commence à le regarder depuis ses marges, comme un système de fin du monde pour tout un tas de populations, de personnes et de zones. Rim, tu avais un exemple à dire à ce sujet, me semble-t-il.
Oui, tout à fait. Il y en a vraiment énormément des exemples où on montre bien que le capitalisme est arrivé dans beaucoup de quasiment tous les contextes géographiques et culturels où il est arrivé, comme une fin du monde. Les deux exemples, l'exemple, je pense, le plus connu, c'est ce que peut décrire Silvia Federici dans son ouvrage fondateur « Caliban et la sorcière », où elle montre comment le capitalisme arrive et détruit toutes les formes culturelles qu'il y avait avant son passage, et notamment en s'accaparant des ressources, on le sait bien, des connaissances, en détruisant les anciennes solidarités. Et ça, il y a plusieurs auteurs et autrices qui le développent, comment vraiment, par exemple, sur la question des communs et des champs qui appartenaient au seigneur, mais où les paysans et paysannes avaient un droit d'accès gratuitement, vu qu'ils utilisaient les champs du seigneur, et notamment en Angleterre, mais aussi dans d'autres types de pays, de nations. Et le capitalisme, les bourgeois ont racheté petit à petit ces territoires. Ça a mis tous ces paysans paysannes, toute la classe paysanne, notamment anglaise, au travail dans les usines. C'est une version très simplifiée, évidemment. Il y a plein d'autres facteurs, mais on le voit, et d'ailleurs on l'expérimente dans la vie de ces paysans, de ces paysannes. Et il y a un autre exemple très intéressant que je me suis rendu compte en refaisant des recherches pour préparer l'émission. Et c'est, en plus, ça va vraiment nous faire un lien avec la collapsologie. Il y a un ouvrage que les collapsologues citent énormément, qui est un ouvrage d'un anthropologue qui s'appelle Jared Diamonds, qui est un ouvrage qui a été traduit en français par Effondrement, qui est un ouvrage qui a été beaucoup critiqué dans la communauté des chercheurs et chercheuses en anthropologie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas mon domaine de compétence. Mais là où il y a eu une grosse critique et qui est intéressante, c'est qu'il dit qu'il y a eu des effondrements civilisationnels de diverses civilisations qu'il y a eu avant nous, notamment les Mayas, par exemple, l'Empire romain. Et notamment, il parle de l'île de Pâques et il dit que la société qui avait sur l'île de Pâques se serait effondrée à cause d'une surexploitation de son environnement, pour diverses raisons, et que cette population n'aurait pas réussi à gérer cet environnement-là et se serait effondrée sur elle-même. Et en fait, il y a des anthropologues et des historiens et historiennes qui l'ont critiqué en disant pas du tout. En grosse partie, ce qui a provoqué l'effondrement de ces sociétés-là, c'est l'arrivée des colons sur place, le début aussi de l'esclavage. Et en fait, même s'il y a en partie des dimensions écologiques, et notamment les collapsologues vont vraiment trop insister dessus en pensant que, en oubliant toute dynamique sociale et en pensant qu'il n'y a que des facteurs extérieurs aux sociétés qui peuvent les déstabiliser et que, en fait, ces facteurs extérieurs sont, en choix, quand on les analyse, on peut clairement les analyser comme des facteurs intérieurs. La production de pétrole, ce genre de choses, c'est des facteurs qui ne sont pas extérieurs à nos sociétés, c'est des facteurs que nous produisons, nous, qui sont à l'intérieur de nos sociétés. Là, c'est le capitalisme, notamment le capitalisme colonial, qui a détruit ces sociétés-là. Il a détruit les anciennes solidarités qu'il y avait avant lui. Et c'est un processus qui est toujours en cours. Je pense par exemple aux Amérindiens et la diversité des peuples qui vivent sur les territoires de l'Amérique, qui sont toujours dans un processus, le capitalisme est toujours dans un processus de colonisation de ces territoires-là. En détruisant leur territoire et en les colonisant via des pipelines, ce genre de choses.
Alors moi, sur cette question-là, il y a un livre qui pourrait peut-être intéresser les auditeurs, qui m'a complètement bouleversé, qui est le livre de Chinua Achebe, Tout s'effondre, ou Le monde s'effondre, ça dépend comment c'est traduit, Et c'est vrai qu'on a ce processus en fait colonial qui détruit en fait des relations sociales, qui détruit des fonctionnements, qu'on retrouve d'ailleurs dans les sociétés contemporaines. Hein. On a beaucoup entendu parler en préparant l'émission, par exemple, la question du chlordécone, qui est une molécule chimique qui a complètement empoisonné en fait la terre, l'eau et les gens et à peu près toutes les créatures vivantes sur l'île de la Martinique. Et qui continue de participer en fait le capitalisme se développant en fait en quelque sorte en détruisant ce dans quoi il s'installe. Isabella, c'est les mobilisations que tu as vues ou auxquelles tu as participé, est-ce que tu as l'impression que c'était des réactions des mobilisations défensives face à ce type de processus ou est-ce que c'était
Ah
lié à autre chose?
oui, tout à fait, tout à fait. En fait, vraiment merci pour ce point sur sur le colonialisme parce que c'est vraiment important. Évidemment, dans l'histoire du capitalisme, le capitalisme n'existe pas sans le colonialisme et aussi un colonialisme interne qui a déjà, comme le dit Vidalou dans son superbe livre, j'aime bien être forêt, quand il parle justement de l'histoire de la France elle-même, comme elle a dû coloniser certaines parties de son territoire lui-même avant d'aller, et donc les mêmes techniques, même de quadrillage géographique, cartographique qu'elle a utilisé, les a utilisées derrière dans les colonies. Donc ça, c'est mon côté géographe. Mais ce qu'on a vécu en Italie au moment de la catastrophe, c'était exactement ça. Moi, dans ma thèse, j'utilise évidemment Gramsci, qui est quand même ce penseur italien enfin, antifasciste. Donc, ce n'est pas non plus un hasard, qui, voilà, il élabore le concept de subalternité, justement en pensant à ce qui se passait dans sa Sardaigne natale dans les années 30, pendant, donc, il était encore une culture très, très ancestrale, très rurale, voilà. Et au moment où le fascisme arrivait, il imposait sa modernité, sa modernisation. On sait bien que tous les fascismes, les nazismes, l'idéologie soviétique, enfin, les marxistes-léninistes, historiques ont été des leviers pour imposer les schémas de modernisation, si bien que Franco, enfin tous quoi. Et donc effectivement, même dans mon cas, oui, on avait tous l'impression effectivement de défendre. Enfin, nous-mêmes, on s'appelait un peu les Apaches, quoi, pour rigoler. On faisait des actions Apaches. On disait, dans la nuit, pour rentrer dans notre ville qui était militarisée, qui était fermée, bloquée. Il a été pendant 2 ans. Voilà. Enfin, en fait, on avait vraiment l'impression de connaître, d'être en défensive. On faisait des actions comme ça, rien que pour montrer qu'on était là, qu'on était vivant, qu'on pouvait pas juste nous effacer comme ça du sol, quoi, de la terre. Et puis, bien sûr, bien au-delà de ça, mon analyse, oui, elle utilise cette idée de colonialisme épistémique, parce qu'en fait, la forme dans laquelle c'est arrivé, par exemple, dans mon cas, c'était un écrasement par une connaissance supérieure d'ingénieurs, évidemment, donc de paroles expertes qu'ils imposaient donc, sur nous, qui sommes les habitants, qui sont d'abord les premiers experts de leur territoire, quoi, enfin, entre guillemets, experts, évidemment, les premiers connaisseurs, les premiers à aimer leur territoire et donc à le vivre et à vouloir voilà, continuer à y habiter en paix. Et en fait, non, ça a été ils nous ont imposé vraiment un modèle spécifique fait de New Town, fait de Smart City, fait de voilà de la nouvelle manière dont le capitalisme urbain aujourd'hui s'est développé. Donc oui, on a dû pendant longtemps mettre en marche des systèmes de résistance de type anticolonialiste quoi. En plus, dans la dynamique italienne de nord-sud, vous savez, il y a une énorme différence historiquement si déterminée dont Gramsci s'occupe aussi, un clivage énorme entre le nord et le sud. Et donc, en fait, on avait vraiment cette dynamique-là de colonialisme du nord sur le sud, quoi.
Ces stratégies de résistance, elles passent parfois par l'exercice, comme tu l'as dit tout à l'heure, Isabella, des utopies concrètes. Nous, on a rencontré pour cette émission un sociologue qui s'appelle Michel Lallemand. Michel Lallemand, il est spécialiste de sociologie du travail, de sociologie de l'action publique, il travaille au CNAB. Et il a travaillé dans notamment deux de ses livres les plus récents, qui sont Makers et, évidemment, j'ai oublié le nom du deuxième livre, mais je jetterai la référence sur Twitter. Il a travaillé sur des personnes qui développent des utopies concrètes, donc on a été le rencontrer. Il a gentiment accepté de répondre à nos questions, donc on va écouter maintenant les réponses de Michel Lallemand à ces questions posées aimablement par notre camarade Diba de Radio Pirate.
Bonjour Michel Lallemand, vous avez publié en 2019 un ouvrage sur la communauté autonome de Twin Oaks, qui est un espace de vie alternatif aux États-Unis, parmi les plus anciens encore en existence. À votre avis, comment s'explique l'émergence de tels espaces? Pourquoi les gens les rejoignent-ils? Et comment expliquer la longévité de cette communauté en particulier?
Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette question. Oui, Twin Oaks, c'est l'illustration de ce qu'on appelle aux États-Unis des communautés intentionnelles. Le terme a gagné aujourd'hui l'Europe pour désigner des modes de vie, des espaces de vie collectifs dans lesquels les individus, hommes, femmes, enfants, ont fait le choix de vivre autrement que de ce qu'on appelle dans ces mondes particuliers, autrement que la société dominante, autrement que le grand monde. Alors ces communautés, elles ont connu des destins un peu différents. Elles ont beaucoup fleuri au début des années 70 en France, en Allemagne, aux États-Unis. Et puis aujourd'hui, elles ont à nouveau le vent en poupe. Qu'est-ce qui explique que certaines personnes font le choix de venir vivre ou d'adopter ce type de style de vie? Ben, très clairement, d'abord, c'est un refus. C'est un refus du grand monde, des pratiques et des valeurs dont celui-ci est porteur, celle d'un capitalisme qui se métamorphose sans cesse, mais toujours avec une volonté de maximiser l'usage de l'énergie des uns et des autres au service d'une valorisation du capital, le refus d'un mode de vie qui est articulé sur l'urbanisation, sur l'exploitation des ressources naturelles sans considération sur les conséquences écologiques et climatiques, etc., etc. Et donc, deuxième caractéristique, c'est que face à ce refus d'un système dont on a le sentiment qu'il va en s'accélérant, c'est l'idée de promouvoir d'autres valeurs et d'autres modes de vie. Et parmi ces valeurs qui aujourd'hui sont centrales et qui justifient l'arrivée dans ces communautés, il y a celle d'égalité, il y a celle de féminisme, il y a celle d'écologie, etc., etc. Donc, deuxième chose importante, c'est pas simplement un refus, c'est vraiment un acte positif, militant, qui consiste à vouloir fabriquer un nouveau monde et montrer que ce nouveau monde est possible à une échelle qui est locale et qui fera on l'espère, tâche d'huile. Et puis, troisième caractéristique qui fait qu'il y a une volonté de s'engager, c'est que c'est des aventures collectives. Ce n'est pas un retrait individuel, c'est véritablement une action collective, durable, et dont on espère, en tout cas les militants, les personnes qui s'engagent dans ce comité, espèrent qu'elles vont transformer l'ensemble. Parce que c'est vrai que certaines communautés, historiquement, on le sait, ont été des feux de paille. D'autres, au contraire, ont réussi à vivre très longtemps. Twin Oaks, aux États-Unis, qui est une des communautés les plus anciennes, a fêté en 2017 ses 50 ans, ce qui est quand même pas rien. Alors, il y a plusieurs facteurs de réussite qui fait que ces communautés fonctionnent sur long terme. Première chose, c'est une capacité d'adaptation. Contrairement aux représentations qu'on peut avoir des utopies, ce ne sont absolument pas des modèles qui sont gravés dans le marbre et qui vont s'appliquer quoi qu'il arrive, aux personnes qui vont rejoindre ces communautés. Il y a l'idée que ces communautés sont des expérimentations, on bricole en fonction des contingences, degré d'échec et de réussite que l'on peut constater au cours du temps. Et par exemple, à Twin Oaks, pour prendre un exemple très, très concret, on s'était dit au début, pour partager le travail, les tâches les plus ingrates, celles qui sont les moins populaires, on va les associer à des forme de reconnaissance en termes de crédit de travail plus élevé. Et puis, les tâches les plus plaisantes, on va moins les valoriser. On s'est aperçu que cette façon de faire était créatrice de beaucoup d'effets pervers, et donc du coup, on a décidé que n'importe quelle tâche vaut un crédit de travail. Voilà, typiquement le genre de bricolage qui fait que ça fonctionne. Deuxième chose, c'est que le taux de turnover dans ces communautés est relativement important. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui circulent, même si à Twin Oaks, on peut estimer aujourd'hui que la durée de vie moyenne en tant que communard dans la communauté est de 5 à 8 ans, ce qui n'est pas rien. Mais il y a besoin de renouveler régulièrement les membres qui vivent dans la communauté, parce qu'au bout d'un moment, vivre ensemble, ce n'est pas simple. Et donc, on a besoin de sang neuf, et puis les gens vivent leur aventure vers d'autres communautés éventuellement, etc. Donc, contrairement aux entreprises classiques, le turnover est souvent regardé comme un indice de dysfonctionnement. le turnover est un élément de longévité pour ces communautés. Et puis, il y a deux autres éléments que je voudrais évoquer assez rapidement. La première chose, c'est que les gens travaillent. Parce que si on veut être indépendant et autonome, il faut trouver les moyens de cette autonomie. Et donc, le travail est une activité centrale pour beaucoup de ces communautés. Et puis, dernière chose, et non des moindres, c'est, en tout cas aux États-Unis, c'est beaucoup moins qu'en Europe, c'est que ces communautés ont décidé de s'organiser entre elles dans des organisations relativement souples, de manière à faire entendre leur voix au niveau national. Et donc, ce n'est pas simplement des expériences qui sont purement locales, mais de plus en plus, ces communautés font système pour être des acteurs de la transformation sociale à part entière. Et ça, ça veut dire qu'il y a des soutiens, il y a des partages d'expériences, il y a des ressources qui circulent et qui permettent de soutenir effectivement ces expérimentations.
Merci. Vos travaux ont également porté sur les pratiques des hackers et des makers toujours aux États-Unis. De quoi s'agit-il ? De quelle façon ces pratiques correspondent-elles à des utopies concrètes et à une mise en pratique de principes anarchistes au XXIe siècle ?
Oui, alors vous faites référence aux travaux que j'ai eu la chance de conduire avec Isabelle Berryguier-Hoffmann et Marie-Christine Bureau, de collègues de recherche. On s'est intéressé effectivement à ce qu'on appelle les makers, qui sont une branche de ce qu'on appelle plus généralement les hackers, qui ne sont pas simplement les pirates de l'informatique que nous vendent les grands médias. Les hackers et les makers sont des gens qui ont pour ambition de réinventer un nouveau rapport au monde, et notamment par le bricolage. On parlait tout à l'heure de bricolage social organisationnel. Ces makers veulent imaginer d'autres façons de produire, notamment grâce à des bricolages qui vont utiliser une série de choses qui ont été reléguées au rebut dans la vie de tous les jours, pour pouvoir bricoler, inventer, sans forcément rentrer dans une logique capitaliste d'exploitation, d'intensification, de production de profit, etc. Alors, eux aussi, ces hackers, ont décidé de créer ce qu'on appelle des communautés, mais ce sont des communautés plutôt ouvertes, à la différence des communautés traditionnelles, c'est-à-dire que les gens ne vivent pas forcément 24 heures sur 24 dans les espaces où ils bricolent ensemble, mais ils n'en adoptent pas moins des principes similaires à ceux que perdent dans les communautés qui étaient nées dans les années 70. Et il y a plusieurs principes qui résonnent fortement avec la tradition libertaire ou anarchiste. Alors, premier principe, c'est d'abord une défiance vis-à-vis du monde marchand. Et l'antithèse, en tout cas l'ennemi, si j'ose dire, de ce monde hacker-maker, ce sont les grandes entreprises comme Apple, par exemple, qui ont décidé de verrouiller complètement leurs produits et en déniant toute capacité, toute possibilité de la part des consommateurs, de n'importe qui, de pouvoir intervenir sur les produits. L'idée des hackers et makers, c'est de dire nous sommes capables d'être autonomes dans notre rapport au monde et dans la façon de bricoler et d'utiliser les outils et les produits que nous utilisons, etc. Donc ça, c'est une première chose, c'est faire le pari de l'autonomie des personnes. Deuxième chose, c'est le rejet de la domination et de la domination ordinaire. Et dans les hackerspace, qui sont des communautés de bricolage ouvertes aujourd'hui, qui se sont diffusées à travers le monde, il y a refus de toute forme d'instauration de relations verticales qui passent par la figure des petits chefs ou par des gens qui vont avoir la responsabilité durable de la communauté. L'idée, c'est de démocratiser la façon de gérer ces espaces et de bricolage commun. Et puis, il y a un quatrième élément qui sont importants, c'est l'importance donnée à la délibération collective. Si on veut faire vivre démocratiquement les collectifs, il faut du temps. Et il faut du temps donné à la parole. Et donc, l'idée, c'est que régulièrement, on délibère ensemble en donnant la parole au maximum de gens, même les moins impliqués. Ce qui n'est pas toujours facile, parce que c'est vrai qu'on sait qu'il y a des gens qui sont plus prompts à parler que d'autres, etc. Mais c'est quand même un élément important. Et puis, last but not least, si je puis me permettre, les communautés hackers les plus fidèles à la tradition anarchiste se défient du vote. Et donc, on remet au bout du jour des pratiques de consensus pour les prises de décision, en disant que c'est important qu'il n'y ait pas une majorité qui écrase une minorité à l'occasion d'une prise de décision. Et donc, le consensus est une valeur et une pratique qui va accompagner une série de pratiques alternatives, comme par exemple le fait de reprendre à son compte des pratiques qu'on trouve dans les grandes entreprises, dans les universités, et de les subvertir, hein, ce qui est une façon assez intéressante d'agir et de transformer le monde. Par exemple, vous savez que dans les grandes entreprises, dans les universités, on fait souvent des colloques, des réunions de discussion, etc., et qui souvent sont payantes. Et dans les hackerspace, on fait ce qu'on appelle des unconferences, c'est-à-dire des non-conférences. On reprend l'idée de partage des savoirs entre personnes de toute situation, de tout niveau de savoir, mais en disant il n'y a aucune raison que ce soit uniquement ceux qui savent qui vont s'adresser à ceux qui ne savent pas, on ne fait pas payer, etc., etc. Donc on trouve là toute une série de pratiques qui subvertissent complètement les façons de faire dans le grand monde et qui vont horizontaliser et démocratiser les relations.
Merci. Pour prendre de la hauteur, en tant que spécialiste de ces fameuses utopies concrètes, quel rôle attribuez-vous à ces pratiques dans le développement des luttes sociales? Pensez-vous qu'elles permettent, comme le veut le vieux dicton libertaire, de construire le nouveau monde sur les ruines de l'ancien, ou au contraire, correspondent-elles seulement à un désir de fuite?
Ce qui me frappe beaucoup dans l'expérience contemporaine de ces communautés d'inspiration libertaire ou anarchiste, c'est que c'est bien plus qu'une volonté de fuite. Et ça, c'est important parce que dans les années 70, lorsque les sociologues s'étaient intéressés, notamment en France, à ces communautés alternatives, ils voyaient qu'un élément négatif de fuite qui était lié souvent à des profils sociaux de gens qui avaient investi des fonctions professionnelles comme celles de travailleurs sociaux, d'éducateurs, d'instituteurs, d'infirmiers, etc. Donc des gens qui pensaient leur métier sur le mode de la vocation. Et puis, se heurtant au marché, se heurtant à la bureaucratie, c'était dit qu'il n'y a plus aucun sens et qu'ils avaient fui, en réalité, leur monde professionnel. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de capacité à inventer localement des formes alternatives. L'exemple typique, ce sont les ZAD, hein, qui ont fait l'actualité des luttes sociales au cours de ces dernières années, et qui montrent que on a plus qu'un retrait du monde, mais une volonté de transformer. Cette volonté de transformer très complètement le monde n'est pas associée à une espèce de politique de la bulle, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on ne se replie pas tout seul dans son coin, mais on accompagne les luttes sociales. Par exemple, les hackers auxquels nous étions intéressés aux États-Unis, à San Francisco par exemple, avaient accompagné le mouvement Occupy. Vous vous souvenez peut-être de l'ampleur, hein, c'était au début des années 2010. Et donc, les hackers, qui étaient des militants d'informatique notamment, avaient accompagné le mouvement Occupy en fournissant, par exemple, du matériel technique pour pouvoir aider les gens simplement à avoir clair dans les temps qui occupaient les rues à ce moment-là. Ils avaient monté le site informatique du mouvement Occupy, etc. Donc, il y a une porosité entre ces communautés libertaires et anarchistes, et puis les formes d'action sociale plus classiques. De la même manière, Twin Oaks, dont on parlait tout à l'heure, qui sont donc des communards de Virginie, sont très présents dans le mouvement Food Not Bombs, qui est un mouvement important aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on a des militants qui vont s'occuper très concrètement des gens qui crèvent de faim dans la rue, souvent des blacks, hein, et en faisant avec eux à manger, en distribuant de la bouffe, de la nourriture dans la rue. Ils sont les militants de qui étaient présents, par exemple, à Charlottesville, lors de la manifestation contre le Klux Klan. Donc on sait, malheureusement, qu'elle s'est traduite par un assassinat d'une jeune femme par un mâle blanc qui a foncé sur elle en voiture. Donc ce que je veux dire, c'est que on a là aujourd'hui un renouveau de l'action collective par le biais de cette communauté, qui ne sont ni simplement du refus, ni simplement une forme d'isolement, mais qui se transforme aujourd'hui en forme sociale active pour pouvoir à la fois inventer d'autres façons de vivre ensemble et de travailler ensemble, et en même temps de se coordonner dans les luttes avec les forces sociales existantes pour transformer activement le monde.
Merci beaucoup.
bien sur Radio Pirate. Ce soir, on parle de fin du capitalisme et de fin du monde. Et là, on vient d'entendre parler d'utopie concrète. Alors, Isabella, Rim, ce que vous venez d'entendre, est-ce que ça vous parle? La question des utopies concrètes, est-ce que ça vous parle? Et pour conclure un peu cette émission, vous, est-ce que vous avez des expériences ou des connaissances sur ces sujets qui vous ont marqué ou qui vous intéressent? Rim, peut-être d'abord, puis après Isabella pour conclure.
Alors, il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire. C'est des choses à la fois passionnantes et très importantes. Moi, je sais que, par exemple, je me suis pas mal politisé au moment où Notre-Dame-des-Landes était encore une zone de lutte très active. Et j'ai vu aussi, ça, comme beaucoup de monde, sa poursuite et un peu son effondrement sur elle-même par plein de processus. Et c'est aussi ces processus-là qui feraient intéresser, savoir comment des zones de lutte comme celle-ci, ou comme les ronds-points des Gilets jaunes, qui étaient aussi une forme de à la fois une pratique sociale de sortie un petit peu de nos systèmes d'oppression et de création d'autres modes de vie, et en même temps une pratique de lutte directe, comme le peuvent être aussi les blocus des lycées ou des universités dans le temps. Je pense par exemple au blocus de l'université Jean Jaurès II au Mirail à Toulouse en 2018, si je dis pas de bêtises, je sais que c'était 2017, qui a duré très longtemps et où il y a eu des formes de vie qui se sont créées directement à l'intérieur. Et comment le capitalisme, Michel Lamond n'en parle pas, même si j'imagine qu'il en a clairement conscience, et c'est pas son domaine d'analyse, mais ce serait hyper intéressant de voir comment le capitalisme attaque ces zones-là. C'est ce qu'il fait, on l'avait vu sur le Crâne des Landes, on le voit sur les blocus des lycées, même si c'est une forme un petit peu différente, il y a quelques jours, voire peut-être pas aujourd'hui, j'ai pas une nouvelle, mais en tout cas dans la semaine, des blocus des lycées sur Paris, sur Rennes, sur Toulouse, sur Nantes. Comment le capitalisme, comment l'État, comment les différents systèmes d'oppression se défendent contre ces formes qui les attaquent par leur simple existence. Et ça, c'est une question, c'est vraiment comment le mouvement social plus traditionnel, les syndicats, etc., peut défendre ces formes de vie-là, comment ces formes de vie-là, ces lieux peuvent s'autodéfendre aussi. C'est une question très, très importante, très intéressante, et qui a parfois du mal à se mettre en place dans ces lieux-là pour plein de raisons très légitimes, et qui a des fois aussi du mal à se mettre en place dans les mouvements qui pourraient être leurs alliés. Je pense au mouvement syndical, qui parfois a eu un peu de temps à réagir et à les prendre en compte. Donc voilà, c'est un peu le sentiment que ça me donne. C'était très intéressant, et il y a des thématiques à aborder encore dans la pratique et dans la théorie sur ces questions-là, notamment sur la question de la violence.
Les utopies concrètes, c'est quelque chose que tu as connu ?
Oui, ben merci. En fait, oui, je connais peu le travail de Michel Lallemand, donc j'irai volontiers voir un peu ce qu'il a écrit, ce qu'il a produit. En tout cas, je me reconnais vachement dans les valeurs qu'il a énumérées, comme voilà les rejets de l'élimination, la libération collective ou le consensus, tout ça. Et je suis aussi d'accord avec sa conclusion, parce que en effet, moi-même j'ai remarqué les dernières années une volonté dans les utopies concrètes que j'ai pu fréquenter, effectivement un rapprochement à d'autres luttes plus sociales, plus locales, voilà, des solidarités effectivement concrètes aussi, mais qui me semble effectivement construire plus que effectivement la simple construction physique matérielle de maisons en paille ou d'habitats diverses et variés. Et dans mon expérience personnelle, j'ai pu vivre une utopie concrète qui s'appelait Eva, écovillage autoconstruito, donc écovillage autoconstruit, donc après les séismes. À ma connaissance, c'est la seule expérience d'autogestion et d'autodétermination en situation de catastrophe au monde. Alors, donc, ce que je connais, hein, je précise, sont des expériences dans lesquelles les habitants de certaines zones sinistrées ont été, surtout en Sud-Est asiatique, ont été amenés, voilà, suggérés, enfin, de construire des maisons plus écologiques, de se rapprocher dans des mini-quartiers ou voilà, de revenir un peu plus vers le collectif, mais c'est toujours des trucs d'en haut. Et là, nous, en fait, on a construit, voilà, en apprenant en même temps, avec des milliers de personnes qui sont passées par nous. Du coup, on n'a pas que construit les maisons, on a aussi remis en culture plein de terrains abandonnés, parce que bon, c'est des zones d'émigration. Donc, il y a des terres abandonnées qui sont d'ailleurs des biens communs. Donc c'est une autre thématique très commune aussi dans les lieux, enfin l'utopie concrète d'aujourd'hui. Et en même temps, on a essayé aussi de se rallier aux 35 derniers habitants résistants, anciens, de ce village de montagne à 1000 mètres dans les Apennins, pour comprendre par eux, par leur expérience, comment en fait cultiver, comment vivre là-haut, comment faire, et ceci en faisant des grands échanges à coup de, évidemment de convivialité, mais aussi vraiment je mets une petite recherche en fait sur leur lieu de travail, l'expérience de travail agricole là-dessus, et en fait j'ai découvert bon grand chose de nouveau, mais en fait chaque fois dans leur imaginaire, dans leurs paroles, dans leurs souvenirs, mais ce qui revenait c'était des lieux collectifs. En fait il y avait jamais du travail tout seul, il y avait toujours du travail collectif. Et du coup, on a recréé, restitué cette petite recherche. Et ça a en fait créé des liens de fou. Et quand on a voulu combattre ensemble contre une carrière qui était la menace sur le village, en fait, on a pu effectivement agir ensemble. Et ceci s'est couplé aussi avec, par exemple, notre expérience, toujours suite au tremblement de terre de l'Aquila, de la création des brigades de solidarité active, les brigades de la solidarité attiva, qui sont toujours vivantes, donc 11 ans après, qui sont rentrées aussi en action là, avec le Covid, et qui ont porté, donc, c'est plutôt des milieux, voilà, anarchistes, c'est plutôt des milieux militants, de squat, et en fait, ils ont porté en aide vraiment concrète de la solidarité, de la construction de dialogue, et des cultures communes avec, des gens que jamais ils auraient imaginé quoi rencontrer. Donc en fait, merci d'avoir transmis cet extrait d'interview. Je ne sais pas si je peux dire plus. Enfin, j'aurais tellement à dire, mais il y a des questions.
Ouais,
je sais
éventuellement.
Pas.
Ce qu'on fera éventuellement, en réalité, Isabella, parce que là, on touche à la fin du temps qui nous est imparti. Oui. C'est qu'on va devoir, repousser la fin du monde et on réorganisera éventuellement un panel à l'occasion si tu es partante pour l'aventure.
Ça sera moi, avec plaisir.
Et puis on pourra peut-être parler un petit peu plus de fiction, puisqu'on avait prévu de parler de fiction, mais bon, c'est étendu, mais parce qu'il y avait tellement de choses à dire. Donc cette émission touche à sa fin. L'occasion, évidemment, de remercier grandement du coup Isabella Tomasi qui est venue donc nous parler de ses travaux, de ses expériences militantes, de ses approches de questions de catastrophe. L'occasion de remercier Rim du podcast Sortir du capitalisme. Merci grandement à toutes les deux.
Avec plaisir.
Et on vous recommande aussi, moi je vous recommande aussi une revue que j'ai lue pendant la préparation de ce podcast et que je voulais vraiment, vraiment citer, qui est la revue Assiégée, qui est un numéro qui vient de sortir sur les utopies concrètes, avec où elle développe des perspectives assez post-coloniales sur cette question anticoloniale et décoloniale. Et c'est vraiment très, très intéressant comme lecture, on espère qu'elle vous plaira. En attendant, c'est tout pour l'émission de Radio Pirate ce soir. Moi, c'était Pandov Stroknis à la technique ce soir. Il y avait Florian, je remercie aussi Rim, Isabella, bien entendu, Michel Lallemand pour sa participation, Diba qui a fait son interview, tous les auditeurs et toutes les auditrices. Et on vous laisse partir avec encore un peu de douce musique pour accompagner votre fin du monde personnelle.